allons aujourd'hui aborder la question des conséquences du péché. Et nous allons lire, le texte sera pris dans 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 29. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » La scène est associée à la Pâque. Si la Pâque marque la libération d'un peuple opprimé par un autre peuple, conséquence d'une décision fondée sur la peur tant politique qu'économique du Pharaon et de son administration, la scène souligne que par amour pour l'humanité, Dieu a sacrifié son Fils Jésus-Christ pour nous libérer de la puissance de tout ce qui nous conduit à lui désobéir, car le péché est la concrétisation de cette désobéissance. Parce que ces versets sont souvent lus lors de la scène, nous finissons par perdre la signification de l'expression « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ». Nous verrons ce que cette affirmation de Paul peut sous-entendre pour nous. Des personnes pourraient soulever les objections suivantes. Pourquoi le pardon de nos offenses nécessite-t-il la mort du Christ? Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas nous pardonner sans la mort de Jésus sur la croix? Lorsque nous péchons contre quelqu'un, nous sommes tenus de nous pardonner réciproquement. Alors pourquoi Dieu n'agirait-il pas conformément à ce qu'il nous ordonne? Pourquoi Dieu fait-il tant d'histoires pour nous pardonner et déclare-t-il même que cela lui est impossible sans le sacrifice de son Fils? Et pourquoi? Nous en entendons tout le temps. Anselme, évêque de Canterbury, à la fin du XIe siècle, écrivait « Si une personne s'imagine que Dieu peut nous pardonner de la même façon que nous pardonnons aux autres, c'est qu'elle n'a pas réfléchi à la gravité du péché. » Le récit de la vie d'Adam et Ève, de Moïse, de David et des apôtres nous montre que ce n'est pas parce que nous avons une relation directe avec Dieu en personne que nous vivons selon sa volonté ou que nous lui sommes fidèles dans l'adversité. Dans notre société moderne, le mot « péché » a été remplacé par les mots « infraction », c'est de la compétence des tribunaux, « maladie », »,« addiction », »,« compétence de la médecine ». Mais quelle que soit la qualification donnée par la société à nos actes, le péché reste le péché aux yeux de Dieu. Comme Adam avec Ève et Ève avec le serpent, l'être humain a une tendance à se déculpabiliser en transférant la responsabilité de ses fautes et donc de la condamnation qu'il encourt, soit sur la société en général ou un groupe social, soit sur un individu. Et on entend souvent l'expression « c'est à cause de, c'est la faute à ». La Bible prend très au sérieux le péché parce qu'elle prend l'homme au sérieux. Dire que quelqu'un n'est pas responsable de ses actes, c'est le priver de ses prérogatives de créature humaine créée à l'image de Dieu. C'est le mettre inférieur à un animal, car Dieu a dit à Noé après le déluge qu'il tiendra pour responsable les animaux qui tueront un être humain. Le fait que nous soyons tenus pour responsables de nos actes exprime quelque chose de la gloire inhérente à notre nature d'être humain. Pourquoi Dieu ne réagit-il pas à tout le mal qui se passe sur la terre ? Dieu n'a pas réagi face au péché, ce n'est pas par indifférence morale, mais uniquement en raison de sa patience. Les péchés commis sous l'ancienne alliance n'ont pas été sanctionnés ni pardonnés comme ils auraient dû l'être, car, nous dit l'Épître aux Hébreux, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi le jugement de Dieu a eu lieu à la croix. Concernant la Pâque, pour ma part, je pense que la première Pâque a eu lieu quand Dieu tua un animal pour que sa peau couvre les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. L'Épître aux Hébreux souligne que c'est par la foi que Moïse préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. La Pâque a marqué la libération du pouvoir du péché sur les Hébreux et annonce leur future victoire sur une nation n'ayant plus de valeur morale. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car c'est alors que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Cette déchéance morale est décrite dans les livres de l'Exode et du Lévitique. Quand nous prenons le repas du Seigneur, quelle libération dans notre vie célébrons-nous ? C'est à vous de réfléchir. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, le dernier repas de Jésus suivait le sacrifice de l'agneau pascal. Jésus, lui, identifie son dernier repas à celui de la Pâque. Mais d'après Jean, le repas pascal n'était pris que le vendredi soir, ce qui signifierait que Jésus est mort précisément au moment où l'on sacrifiait l'agneau pascal. Dès son enfance, Jésus-Christ a su quelle était sa mission, fondée sur la parole de Dieu, et il a tout fait pour l'accomplir. Il a donné des instructions pour remplacer la célébration de la Pâque par la célébration de la Cène. La Cène institue la nouvelle alliance que Dieu propose à tous les hommes, fondée sur le sacrifice, l'amour et le pardon. Est-ce que nous connaissons la mission que Dieu nous a confiée en nous appuyant sur la Bible ? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour l'accomplir ? Concernant le sacrifice, il semble qu'à la base des sacrifices de l'Ancien Testament, il y ait eu deux notions fondamentales complémentaires. Dieu apparaît d'un côté comme le Créateur, dont l'homme dépend pour sa vie physique et matérielle, et de l'autre, comme le juge qui exige l'expiation du péché et le Sauveur qui l'accomplit. De ces deux types de sacrifices, le second constitue le fondement du premier, dans la mesure où la personne fautive doit d'abord être réconciliée avec Dieu comme juge, avant de pouvoir l'adorer comme créateur. La Pâque, décrite dans le livre de l'Exode, présente Dieu comme juge contre les dieux de l'Égypte et comme rédempteur du peuple hébreu. Il y a là deux actes que les Hébreux ne devaient pas oublier, la substitution par le sacrifice de l'agneau et leur identification à la victime qui les sauve en mangeant sa chair. Concernant l'exigence d'un sacrifice, le problème n'est pas extérieur à Dieu, il est lié à sa nature même. Puisqu'il ne peut pas y avoir de contradiction en Dieu, il doit rester égal à lui-même. Il ne peut pas sauver les hommes par le moyen qui irait à l'encontre de sa nature. Dieu ne disposait que d'un seul moyen pour satisfaire les exigences de sa sainteté, diriger le jugement sur un substitut qu'il agréerait pour que son amour puisse être répandu sur nous et nous valoir son pardon. Si Christ a pu accomplir ce qu'il a fait, c'est uniquement en raison de ce qu'il était. Dieu habitait en lui et agissait par lui. La mort de Jésus-Christ est l'acte sacrificiel qui accomplit les rites de l'ancienne alliance. Concernant le péché, quand vous reprenez le livre du Lévitique, il est dit, c'est le coupable qui tue l'animal offert en sacrifice. Ainsi, malgré eux, le peuple et les religieux juifs et les politiques non-juifs comme Hérode et Pilate ont sacrifié Jésus-Christ pour leurs péchés et ont accompli ainsi la prophétie du psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. La mort de Jésus-Christ, désormais, sollicite la foi et l'engagement de l'homme. Dire que ce n'est pas vraiment un sacrifice, mais une sanction pénale injuste qui reçoit après coup une interprétation sacrificielle ne rend pas justice à l'événement. C'est un drame concret où un sang a été versé, non par accident ou pour des fautes personnelles, mais pour des motifs fondamentalement religieux qui touchent à la relation homme-Dieu. Dans le drame de la crucifixion, il y a deux acteurs, nous d'un côté et Dieu fait homme en Christ de l'autre. En donnant son Fils, Dieu se donnait lui-même. Il a subi la sanction qu'il avait exigée et infligée. Si la Pâque marque la naissance du peuple d'Israël en tant que nation, la mort et la résurrection du Christ donnent naissance à une communauté nouvelle, l'Église composée des personnes venant de toutes les nations. Elle marque le début d'une ère nouvelle dans la nature des relations entre Dieu et les humains et réciproquement. Les auteurs du Nouveau Testament parleront pour désigner les effets de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, tour à tour, de propitiation, de rédemption, de justification et de réconciliation. Nous allons voir un peu ce que signifient ces termes. La propitiation. Le terme nous conduit dans l'enceinte du temple. Le propitiatoire était le couvercle placé sur le coffre de l'Alliance. Jésus, à qui est appliqué ce terme, apparaît comme le recours proposé par Dieu à une humanité coupable et placée sous le coup de sa colère. Rendre quelqu'un propice, c'est apaiser sa colère, calmer son irritation. Le mot « colère » et « propitiation » vont toujours de pair. Le Nouveau Testament ne présente jamais la colère divine comme ayant besoin d'être apaisée, parce qu'elle n'est jamais envisagée comme une attitude de Dieu. La colère de Dieu traduit l'antagonisme continu contre le mal sous toutes ses formes et toutes ses manifestations. Quand Jésus-Christ a été crucifié, le voile du temple, symbole de la séparation de l'homme avec Dieu, s'est déchiré de haut en bas, et Dieu atteste qu'il a ôté la barrière qu'avait élevé le péché et que désormais les hommes ont un libre accès à lui. La Bible affirme que rien de ce que l'homme peut accomplir, dire ou offrir ne peut servir de quelque manière de monnaie d'échange à ses péchés ni apaiser la colère de Dieu. Christ n'a pas fait fléchir Dieu, pas même au prix de son sacrifice. C'est Dieu qui en a pris l'initiative par pure grâce. La personne que Dieu a offerte, c'est lui-même. En donnant son Fils, il s'est donné lui-même. Comment présentons-nous l'Évangile au travers de notre manière de vivre pour que nos contemporains ne soient plus sous la colère de Dieu? La rédemption nous conduit sur la place publique, là où étaient achetés les esclaves. Le mot biblique « rédemption » contient l'idée d'achat ou de rachat, soit sous une forme d'acquisition, soit sous celle de rançon. Le prix payé par Dieu est la mort de son Fils, Jésus-Christ. Il y a le prix de l'incarnation payé pour revêtir notre condition humaine, mais l'essentiel du prix réside dans l'expiation. Et les auteurs des Épîtres, pour souligner le prix payé, utilisent le mot « sang ». Le diable n'a aucun droit sur nous. Le prix payé par Jésus-Christ n'est pas un prix payé au diable pour notre salut, mais le prix offert à Dieu pour ne pas être condamné. Christ nous a acquis au prix de son propre sang, et par conséquent, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur sont devenus sa propriété. Cette réalité devrait nous stimuler à vivre en lui obéissant, et au même titre qu'elle doit inciter les responsables dans les églises à exercer fidèlement leur ministère. Notre vie ne nous appartient plus, elle appartient à Dieu. Comment traitons-nous et utilisons-nous notre corps et notre temps ? La justification nous conduit au palais de justice. La justification est l'opposé de la condamnation. L'une et l'autre procèdent de verdicts prononcés par les juges. La justification présente la contrepartie positive de la rédemption, celle par laquelle Dieu ne nous soustrait plus à quelque chose, mais il nous ajoute quelque chose. Le pardon représente la remise de dette et l'annulation du verdict de culpabilité et de sanction. Par la justification, Dieu nous reconnaît le statut de juste à ses yeux, car nous sommes en règle avec lui. La conversion n'est pas un aspect de la justification, mais les deux sont des aspects du salut et aucune ne peut se produire indépendamment de l'autre. Nous sommes justifiés par le sang du Christ et par la foi. Si la mort expiatoire de Christ n'est pas présentée comme l'unique raison de notre justification, l'homme sera toujours tenté de s'attribuer l'origine de son salut. La traduction « justifié par Christ » met en relief la mort historique de Christ, et la traduction « justifié en Christ » souligne davantage la relation qui nous unit à Christ par la foi. Nous ne pouvons pas considérer la justification isolée de notre union à Jésus-Christ et de tous les bienfaits que cette union procure. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour quelle raison ? Dieu a, en Christ et sur la croix, payé le prix de notre rançon et apaisé sa propre colère contre le péché. Sans cela, il n'aurait pas pu nous justifier. La réconciliation nous interpelle sur la qualité de nos relations dans notre quotidien. La réconciliation consiste à raccommoder la déchirure affective, à renouer le dialogue interrompu, à rétablir la communion brisée. La réconciliation apportée par Jésus-Christ atteste donc qu'il y avait initialement une communion parfaite, laquelle a ensuite été brisée. Dans la Bible, la réconciliation désigne une réconciliation avec Dieu, puis entre les membres d'une communauté. La Bible n'emploie pas ce terme pour parler de l'homme qui s'accepte lui-même. La réconciliation est la raison d'être de l'expiation. Les deux états, justifiés et réconciliés, sont intimement liés à la mort de Christ. Mais il ne faut pas les confondre. La justification traduit notre nouvelle position juridique à l'égard du juge, tandis que la réconciliation exprime la nouvelle relation personnelle que nous entretenons avec Dieu. De plus, la réconciliation est la conséquence de la justification. Mais la réconciliation n'a pas seulement une dimension verticale, elle se vit aussi sur un plan horizontal et cosmique. N'oubliez pas ce que dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, Dieu a réconcilié par le sacrifice de son Fils tout ce qu'il y avait sur la terre et dans le ciel avec lui. Dieu nous a réconciliés les uns avec les autres dans la communauté nouvelle qu'il a fondée, quel que soit notre arrière-plan culturel et social. Dieu est l'auteur de la réconciliation. En conséquence, aucune présentation de la doctrine de la réconciliation ne saurait être tenue pour biblique si elle prive Dieu de l'initiative au profit soit de Christ, soit de l'homme. L'initiative ne vient pas de Jésus-Christ. Il est l'agent de la réconciliation. Il a pris l'initiative de venir sur terre pour accomplir et se soumettre à la volonté de son Père. Dieu, dans son amour, a conçu et donné naissance à la réconciliation. Si Dieu est l'auteur et Christ l'agent, nous, nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation avec Dieu. Avons-nous la volonté d'agir pour que nos contemporains soient réconciliés avec Dieu? De quelle manière le manifestons-nous? Par des paroles ou par des actes? Chacune de ces quatre images du salut nous a introduit dans un cadre différent. La propitiation, l'enceinte du temple. La rédemption, le marché aux esclaves. La justification, le palais de justice. La réconciliation, nos relations. En premier lieu, chacune met en relief l'étendue et la diversité des besoins de l'être humain. La propitiation rappelle que nous sommes sous le coup de la colère. La rédemption évoque notre asservissement au péché. La justification souligne notre culpabilité et la réconciliation met en évidence notre conflit avec Dieu. En deuxième lieu, chacune indique que l'initiative de notre salut revient à Dieu qui agit par amour. C'est lui qui a fait la propitiation pour apaiser sa propre colère, qui nous a rachetés de toutes nos dépendances, qui nous a déclarés justes à ses yeux, et c'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même. En troisième lieu, chacune enseigne clairement que l'œuvre salvatrice de Dieu s'est accomplie au moyen du sang répandu, c'est-à-dire par le sacrifice substitutif de Christ. La substitution n'apparaît pas, donc pas comme une théorie de l'expiation. Elle ne constitue pas davantage une autre image du salut. Elle est l'essence même de chaque image. Elle est au cœur de l'expiation. L'amour de Dieu est la cause et non la conséquence de l'expiation. L'expiation ne procure pas la grâce. Elle découle de la grâce. Christ est mort pour nous parce que Dieu nous aime. Les sentiments de Dieu à notre égard n'ont jamais changé, mais la manière dont Dieu aurait dû nous traiter, elle, a changé. Et en plus, la croix est non seulement le moyen de notre salut, mais également un moyen par lequel Dieu s'est révélé. De même que les hommes révèlent par leurs actes un aspect de leur caractère, ainsi Dieu s'est dévoilé par la mort de son Fils. Jésus a clairement associé sa mort à l'heure de sa glorification. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Et sur la croix, il dira « Tout est accompli. » La glorification est celle du Père et du Fils. La gloire qui rayonne de la croix n'est autre que l'association de la miséricorde et de la justice, telle que Dieu l'a révélée à Moïse quand celui-ci lui demande « Fais-moi voir ta gloire » et l'Éternel lui répond « L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » C'est l'association de la grâce et de la vérité décrite au début de l'évangile de Jean. Là où Jean voit une manifestation de la gloire de Dieu, Paul aperçoit une démonstration, voire une apologie de sa justice et de son amour. Que chacun examine sa manière de vivre pour savoir s'il peut dire chaque jour « J'ai glorifié Dieu, j'ai accompli ce qu'il m'a demandé de faire ». En conclusion, quand bien même dans la société notre réflexion serait constamment en but aux problèmes du mal et de la souffrance, nous ne devons pas nous laisser détourner de la croix, où l'amour de Dieu a été publiquement et visiblement manifesté. Si la croix peut être considérée comme une tragédie, c'en est une qui illumine toutes les autres qui touchent l'humanité. La croix reste le fait objectif par lequel Dieu prouve son amour envers nous. La croix est le point de départ de la création d'un peuple qui a une relation de foi et d'amour avec Dieu, son Créateur. La scène nous rappelle son amour pour toute l'humanité et nous encourage à l'annoncer. Que Dieu nous aide à avoir toujours ce cœur aimant envers lui et envers nos contemporains.